Aventure de la famille Popkins. Peu de jours s'étaient écoulés depuis que le carrosse de l'alderman Popkins était passé à l'auberge de Tetalacine. Ceux qui ont vu un carrosse de famille anglais sur le continent doivent avoir remarqué quelle sensation il y produit. C'est l'Angleterre en raccourci. Une petite portion de la vieille île, détachée et roulant par le monde. Tout y est ferme, solide, soigné et commode. Les roues tournent sans bruit sur de larges essieux. Le corps de la voiture, adroitement suspendu sur ses ressorts, cède à chaque ballottement, mais prévient chaque secousse. Des faces vermeilles se montrent aux portières. Tantôt un gros vieux bourgeois, tantôt une volumineuse douairière, tantôt une jeune et jolie fille à peine sortie de pension. Puis le siège, chargé de laquais bien vêtus, gras et joufflus, jetant de leur poste élevé un regard de dédain sur le monde qui les entoure, et dévotement convaincu que tout ce qui n'est pas anglais ne peut rien valoir. Tel était l'équipage de l'alderman Popkins quand il fit son entrée à Tetalacine. Le coureur qui l'avait précédé pour demander des chevaux, et qui était napolitain, avait fait un magnifique tableau des richesses et de la grandeur de son maître, défigurant avec tout l'éclat d'une imagination italienne les titres et dignités de l'alderman. L'hôte y avait ajouté sa part habituelle d'exagération. Ainsi, au moment où l'alderman arriva à la porte, il fut un milord, un magnifico, un principe, un dieu sait quoi. On conseilla à l'alderman de prendre une escorte pour Fondi et Itri. Il refusa. Il y allait, disait-il, de la vie de l'arrêter sur le grand chemin du roi. Il s'en plaindrait à l'ambassadeur de Naples. Il en ferait une affaire nationale. La principessa Popkins mère, assez fraîche encore, semblait pleine de confiance en la protection de son mari, homme si puissant dans la cité. Les signorines et Popkins, deux jolies filles joufflues, comptaient sur leur frère Tom, qui avait appris à boxer. Et quant au marmot lui-même, il jurait que pas un scaramouche de voleur italien n'oserait se frotter à un anglais. L'aubergiste leva les épaules, tourna ses mains en dehors avec une vraie grimace italienne, et le carrosse de Milord Popkins se remit en marche. Ils traversèrent sans obstacle plusieurs endroits dangereux. Les demoiselles Popkins, qui étaient fort romantiques et avaient appris à peindre à la gouache, étaient enchantées de la scène sauvage qui les entourait. C'était absolument ce qu'elles avaient lu dans les romans de Madame Radcliffe. Elles ne voyaient que sujet de dessin. Enfin, la voiture atteignit un lieu où la route suivait une longue colline. Mrs. Popkins s'était endormie, les jeunes personnes plongées dans les amours des anges. Et le marmot, perché sur le siège, jurait après les postillons. L'alderman descendit, afin, disait-il, de se dégourdir les jambes sur la colline. La montée longue et rude l'obligea plus d'une fois à faire halte pour respirer. Il s'essuya le front avec plus d'un pshh et d'un pfff, car il était tant soit peu poussif et de courte haleine. Mais, ayant beaucoup d'avance sur la voiture qui ne se mouvait qu'avec lenteur sous le poids de ses malles et de ses dodus voyageurs, il avait tout le temps de marcher sans se hâter. Sur une pointe saillante de rochers qui dominait la route, presque au sommet de la colline, au lieu même où on recommençait à descendre, il vit un homme alors assis seul, qui avait l'air de garder des chèvres. L'alderman Popkins était un de ces adroits voyageurs qui aiment toujours à recueillir chemin faisant quelques informations. Il jugea donc à propos de grimper vers l'honnête homme et de jaser un peu avec lui pour savoir des nouvelles et prendre une leçon d'italien. En s'approchant du paysan, il ne fut pas fort content de sa tournure. Celui-ci était à demi étendu sur le rocher, enveloppé dans le long manteau d'usage qui, avec son large chapeau, ne laissait voir qu'une partie de son visage basané, avec un œil noir et perçant, un épais sourcil et une moustache menaçante. Il avait sifflé plusieurs fois son chien qui courait sur le penchant de la colline. À l'approche de l'alderman, il se leva et vint à sa rencontre. Debout, il semblait presque un géant, du moins aux yeux de l'alderman Popkins, qui, étant de fort petite taille, pouvait, il est vrai, se tromper. Ce dernier aurait alors voulu se trouver dans sa voiture, peut-être même à la Bourse de Londres, car cette compagnie lui plaisait fort peu. Cependant, il se décida à faire de son mieux et venait de commencer une conversation sur l'air du temps, la faiblesse de la récolte et le prix des chèvres dans le pays quand il entendit un violent tumulte. Il courut au bord du rocher et, regardant sur la route, il vit son carrosse entouré de brigands. L'un avait renversé le gros laquais, un autre tenait le marmot par sa cravate empesée, un pistolet sur sa tête, un troisième fouillait un porte-manteau, un quatrième vidait les poches de la principessa, tandis que les deux demoiselles Popkins poussaient des cris de la portière et leur femme de chambre du haut du siège. L'alderman Popkins sentit bouillonner en lui toute la fureur d'un mari, d'un père et d'un magistrat. Il saisit sa canne et allait s'élancer au pied du rocher pour fondre sur les brigands ou leur dresser son procès-verbal quand il fut brusquement saisi par le bras. C'était par son ami le chevrier qui, rejetant son manteau, laissa voir sa ceinture pleine de pistolets et de poignards. En un mot, il se trouvait dans les griffes du chef de la bande qui s'était posté sur le rocher pour épier l'approche des voyageurs et donner le signal à ses gens. Un pillage affreux commença. Les malles se vidaient, toute la parure et friperie de la famille Popkin s'était renversée sur la route. Quel chaos de chapelets de Venise et de mosaïques romaines! Des bonnets de Paris des jeunes personnes, mêlés aux bonnets de nuit et aux bas de laine de l'Alderman, avec les brosses, jabots et cravates empesées du marmot. Les messieurs furent débarrassés de leurs bourses et montres, les dames de leurs joyaux, et toute la troupe allait être emmenée dans les montagnes quand, par bonheur, l'aspect d'une troupe éloignée de soldats força les voleurs à se retirer avec ses dépouilles et à laisser la famille Popkins réunir les débris de son bagage et se remettre en route pour Fondy. Quand ils y furent arrivés, l'Alderman fit à l'auberge un terrible tapage, menaça de se plaindre à l'ambassadeur de Naples et était prêt à lever la canne contre tout le pays. Le marmot avait mille histoires à raconter de ses combats avec les brigands qui n'avaient eu que l'avantage du nombre. Quant aux demoiselles Popkins, elles furent charmées de l'aventure et passèrent toute la soirée à l'écrire dans leur journal. Elles déclarèrent que le capitaine de la bande était un homme de la physionomie la plus romantique, sans doute quelque amant malheureux ou quelque seigneur exilé, et que plusieurs des brigands étaient des jeunes gens d'une figure fort jolie et tout à fait pittoresque. « Au fait, dit mon hôte de Terracine, le capitaine de la bande passe pour un galantuomo. »« Un galant homme ? » dit l'anglais indigné. « Je vous ferai pendre votre galant comme un chien. »« Osez se frotter à des anglais, » dit M. Hobbs. « Et à la famille des Popkins, » dit M. Dobbs. « Ils eussent dû demander des dommages et intérêts, » dit M. Hobbs. « Notre ambassadeur devrait se plaindre au gouvernement de Naples, » dit M. Dobbs. « On devrait les forcer de chasser ces coquins du pays, » dit Hobbs. « Et sinon leur déclarer la guerre, » dit Dobbs.
« Piche, humbug !» murmura l'anglais.
Il avait été un peu ennuyé de cette histoire et du zèle outré de ses concitoyens. Il se vit avec plaisir délivré de la foule des voyageurs par l'annonce de leur souper. Il sortit avec ses amis vénitiens et un jeune français de l'air le plus prévenant qui avait fait connaissance avec eux dans le cours de la conversation. Ils dirigèrent leurs pas vers la mer éclairée des premiers rayons de la lune. En se promenant sur la grève, ils rencontrèrent une troupe de soldats rangés en cercle. Ils gardaient une bande de galériens à qui on permettait de jouir de la fraîcheur du soir et de jouer sur le sable. Le français s'arrêta et montra le groupe de ces misérables livrés à leur jeu. « Il est difficile, dit-il, d'imaginer un plus monstrueux assemblage de crimes que celui qui est sous vos yeux. Plusieurs de ces hommes ont sans doute été brigands, tels qu'on vient de vous les décrire. Telle est trop souvent la carrière du crime en ce pays. Le parricide, le fratricide, l'infanticide, le scélérat de tout genre se soustrait à la justice et devient un bandit montagnard. » Puis, las d'une vie précaire, il finit par trahir les compagnons de ses brigandages, les livre au supplice et fait ainsi commuer sa peine de la mort aux galères. Heureux de pouvoir chaque jour se rouler ainsi une heure sur le rivage dans cet état de jouissance animale. La belle vénitienne frémit en jetant les yeux sur cette horde de misérables dans leur jeu du soir. Il semblait, disait-elle, autant de serpents entrelacés. Et cependant, l'idée que quelques-uns avaient été des brigands, ces êtres formidables qui tourmentaient son imagination, la forçait de jeter encore sur eux un regard timide, comme nous contemplons une bête féroce avec un sentiment de crainte et d'horreur, même dans la cage de fer qui l'enferme. La conversation retomba sur les histoires de bandits qu'il venait d'entendre. L'anglais rejetait les unes comme fausses, les autres comme exagérées. Quant au récit de l'improvisateur, il n'y voyait qu'un épisode de roman sorti de la tête du narrateur. Cependant, dit le français, la vie réelle de ces êtres et la singulière contrée qu'ils désolent tiennent tant du roman qu'il serait difficile de fixer ce qu'on doit rejeter comme invraisemblable. J'ai eu moi-même une aventure qui m'a fourni l'occasion d'acquérir quelques connaissances de leurs habitudes et de leurs mœurs que j'ai trouvées complètement étrangères au cours habituel de l'existence. Il y avait dans le français un mélange de franchise et de modestie qui lui avait gagné l'affection de toute la compagnie sans même en excepter l'anglais. Tous le questionnèrent avec vivacité sur les détails de l'événement dont il parlait et, en se promenant de long en large sur le rivage de la mer, il leur conta l'aventure suivante.